Bonsoir et bienvenue du Grain à Moudre sur France Culture. Ce soir, la cybersécurité est-elle vouée à l'échec ? Pas un jour, ou presque, sans une attaque informatique, contre des particuliers, contre des entreprises, contre des États, le Gabon par exemple, en début de semaine. Pas un mois, ou presque non plus, sans scandale retentissant, ce mois-ci par exemple, une affaire d'attaque contre l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques aux Pays-Bas. Des assauts numériques, des données volées, des sociétés rançonnées, bref, de graves et fréquents problèmes de sécurité, près de 180 000 chaque jour dans le monde, un chiffre qui ne cesse de croître, et pourtant, le grand public n'est que peu sensibilisé sur ces questions. Les entreprises sont rarement bien préparées, bien protégées et les responsables politiques semblent à la traîne en dépit de quelques actions, de quelques manifestations comme le mois européen de la cybersécurité. C'est en ce moment, jusqu'au 11 novembre, à la traîne donc, face aux gigantesques enjeux de ce sujet. Partant, la cybersécurité est-elle vouée à l'échec ? C'est la question du Grain à Moudre ce soir. Pour y répondre, trois invités. Laure de la Rodière, bonsoir.
Bonsoir.
Députée UDI Agir, coprésidente du groupe d'études cybersécurité et souveraineté numérique à l'Assemblée nationale. Vous êtes ingénieur des télécoms de formation.
Tout à fait.
Genma, bonsoir.
Bonsoir.
Un pseudonyme connu des spécialistes et d'une frange du public, car vous organisez des conférences et des ateliers pour tous. Vous militez pour la promotion de la sécurité informatique. Vous êtes aussi directeur des systèmes d'information dans une PME, l'Inagora. Philippe Trouchot, bonsoir.
Bonsoir.
Associé au sein du cabinet de conseil PricewaterhouseCoopers, en charge des activités de cybersécurité pour la France, vous conseillez de grands groupes internationaux, des entreprises du CAC 40. Vous êtes l'auteur de La cybersécurité face aux défis de la confiance, livre publié chez Odile Jacob. Trois invités donc, trois profils complémentaires pour tenter de faire le tour de cette vaste question. On parlait des attaques, beaucoup d'attaques, je le disais, quasi quotidiennes. Des attaques qui d'ailleurs prennent une multitude de formes, parfois difficiles à Paris. Je voulais qu'on s'arrête d'abord sur ceux qui attaquent, sur les pirates, sur les hackers. Ces gens-là, Genma, ont-ils un temps d'avance sur nous, utilisateurs, particuliers, entreprises ?
Alors en fait, il faut différencier, je pense, les attaques qu'on fait au niveau des entreprises, des attaques qu'on fait au niveau du particulier. On va pas chercher les mêmes choses. Au niveau des entreprises, ça va être surtout de l'espionnage industriel ou utiliser des ressources machines pour faire d'autres attaques. Au niveau du particulier, ça va être plus en fait des racketticiels, des ransomware, comme on appelle. Il y a tout le système de phishing. Quoique, en fait, l'usager a été sensibilisé à toutes ces problématiques de mail, en fait, où on a gagné au loto. Il y a quelques années, ça marchait. Maintenant, ça ne marche plus. Donc, en fait, on a une sophistication qui se fait justement dans ces attaques-là.
Mmh. Donc ça, ce sont les modes d'action de ces hackers. Philippe Trouchot, aujourd'hui, ces pirates, ces assaillants, ont-ils un temps d'avance sur la sécurité, la cybersécurité, les entreprises qui travaillent sur le sujet ?
On pourrait dire aussi que ceux qui sont victimes ont un temps de retard. La caractéristique des attaquants, c'est qu'on voit aujourd'hui une parfaite translation de la délinquance physique vers le cybercrime. C'est beaucoup plus rentable, il n'y a pas de fait de violence. Si vous avez le bon goût de diligenter vos attaques dans un pays où il n'y a pas de convention juridique, vous risquez pas grand-chose. Et même si vous vous faites pincer, historiquement, les tribunaux sont toujours extrêmement cléments vis-à-vis de ceux qui considèrent comme des Robin des Bois. Donc vous avez le crime organisé. C'est une activité très lucrative. Vous avez des États que ça intéresse parce que c'est un nouveau moyen d'espionnage. Et effectivement, les entreprises ou les particuliers sont un peu dans le syndrome de la citadelle assiégée, c'est-à-dire qu'ils se défendent avec les moyens qui sont les leurs. Et il y a peu de collaboration entre entreprises, encore moins entre entreprises et particuliers, et même entre les réseaux universitaires et les agences étatiques. Le niveau de collaboration est assez faible. Donc en fait, on a toujours un temps de retard parce qu'on n'anticipe pas les nouvelles menaces et on ne capitalise pas sur la résolution des incidents. Donc c'est ça qui explique finalement le temps d'avance ou le temps de retard suivant le point de vue qu'on prend.
L'anticipation, la collaboration, la coopération, on va en parler, on aura l'occasion d'en parler un peu plus tard dans cette émission. Laure de la Rodière, sur ces assaillants, là encore, est-ce que ils ont un temps d'avance sur ce qu'on essaye de faire pour les contrer ?
Alors oui, les assaillants ont un temps d'avance parce que comme vous l'avez très bien dit, nous avons une prise de conscience très tardive et les menaces augmentent très rapidement. Or la prise de conscience, c'est de la pédagogie de tous les citoyens, de toutes les entreprises, c'est long à décliner. Donc la plupart des entreprises, particulièrement les PME et la plupart des citoyens sont relativement désarmés, désemparés Pour autant, le gouvernement a mis en place un outil qui s'appelle cybermalveillance.gouv.fr où vous pouvez à la fois recueillir des conseils, mais aussi signaler toutes les attaques que vous subissez. Il y a aujourd'hui peu de prise de conscience dans le grand public, peu de prise de conscience dans les chefs d'entreprise de l'importance de ces menaces, de la permanence de ces menaces quotidiennement, parce qu'on n'a pas été formé à ça. Quand vous avez un enfant et que vous lui faites traverser la rue les premières fois quand il est seul, vous lui apprenez à le faire. Et puis, à l'école, on apprend aussi à se protéger de certains risques. On est informé de notre plus âgé âge. Pour la cybersécurité, c'est pas le cas. Personne n'en parle et les Français en sont pas conscients. C'est-à-dire, si vous demandez aux citoyens dans la rue s'ils ont déjà subi une cyberattaque, ils vont vous dire non, mais le jour où ça va arriver, ils vont être démunis pour pouvoir se prémunir du ransomware qui viendra capter leurs données et qui demandera une rançon, souvent des rançons de 200, 250, élevé, 300 euros, pas très élevées. C'est très lucratif pour le malfrat qui est derrière, parce qu'en général, les gens payent pour récupérer leurs données. Et quelquefois, ils n'arrivent pas à les récupérer. Ouais. C'est-à-dire, il y a deux types de malfrats. Il y a les malfrats qui rendent les données, et puis les malfrats qui les rendent pas. Donc, je voudrais dire aussi aux citoyens, si jamais ça vous arrive, la première chose, c'est de signaler ceci, plutôt que de payer.
Avant de parler de pédagogie, Guenma, comment sait-on qu'on a été attaqué, piraté, comme vient de le dire Laure de la Rodière?
Alors, si l'attaque est bien faite, on le sait pas. En fait, c'est idéalement, en fait, pendant longtemps, ça a été qu'on va mettre en avant justement pour avoir des rançons, etc., où c'est de l'argent facile. Maintenant, il y a d'autres aspects où on va utiliser en fait les PC aux dépens d'utilisateurs, justement pour pas, en fait, sans qu'ils le sachent. Parce que si on bloque l'ordinateur, c'est visible. On a de l'argent tout de suite. Tandis que si on ne bloque pas l'ordinateur, mais on l'utilise pendant des temps en fait d'inactivité de l'ordinateur, quand l'ordinateur tourne en continu, ça va permettre de créer des réseaux de ce qu'on appelle des botnets, en fait, des PC en fait qui sont sous le contrôle d'un attaquant. Il y a un marché noir justement de ces botnets-là où on va vendre en fait des puissances ressources machines qui vont permettre de faire des attaques ciblées de masse pendant un temps donné sur un système industriel ou un système informatique quelconque. Et justement, en fait, tant que c'est pas détecté, en fait, la machine est utilisable.
On voit là, Philippe Trouchot, que dans certains cas, en tout cas, on se dit que face à une attaque informatique, c'est trop compliqué, qu'on n'arrivera jamais vraiment à se protéger, qu'on ne comprend pas très bien non plus ce qui se passe. Et être à la merci des hackers, finalement, est-ce que c'est une fatalité?
Non, pas du tout. Comme ça a déjà été dit, en réalité, on est peu formé, pas informé, et en fait, les mécanismes de base de protection, ils sont pas en place. Donc, ça, les systèmes sont pas à jour. Hein, donc, c'est les fameux patch, mise à jour logiciels. On a un défaut structurel, c'est que finalement, on utilise des logiciels de mauvaise qualité, en fait. Hein, donc, c'est un problème endémique. Heureusement que l'industrie automobile fabrique pas ses voitures comme on fabrique des logiciels, parce que les logiciels, on découvre des nouvelles vulnérabilités tous les jours. Et donc, si on met pas à jour son smartphone, par exemple, il peut être sécurisé aujourd'hui, il le sera pas demain. Donc, cette problématique de mise à jour, c'est la première. Et il y a une hygiène en matière de cybersécurité, comme le fait d'avoir des mots de passe robustes, d'avoir des sauvegardes de ces données, qui est pas en place. Donc, les incidents de cybersécurité, ils n'arrivent pas par hasard, et ils arrivent toujours parce que on a quelques malveillances. Et par ailleurs, il faut quand même avoir en tête, quand on parle des entreprises, qu'on sort d'une ère post-crise. Donc, depuis 2008, dans toutes les entreprises, on a fait beaucoup de plans de réduction de coûts et l'informatique a souvent été la variable d'ajustement de ces plans de réduction de coûts. Donc, ce qui était en place il y a 10 ans ne l'est pas forcément. On trouve encore des entreprises qui n'ont pas de sauvegarde de leurs données.
Laure de la Rodière.
En fait, il y a eu une prise de conscience cette année dans les grandes entreprises suite aux deux grandes attaques virales, WannaCry et Petya. Donc, c'était à la fin du printemps. Ça visait pas particulièrement les entreprises françaises. WannaCry, je crois que c'était plutôt centré sur l'Ukraine. Donc, on voit que du malfrat informatique, il peut y avoir aussi quelquefois des États qui ont un intérêt à déstabiliser d'autres États par des attaques de cette ampleur. Mais certaines entreprises françaises et très grandes ont été touchées. Et suite à ça, il y a eu des communications dans la presse grand public. Les entreprises ont mis en place des procédures beaucoup plus strictes pour protéger, en fait, face au risque cyber. Je vais vous donner un exemple. Je crois que c'est Saint-Gobain qui, maintenant, ne délivre plus le service informatique à ses utilisateurs si ils n'ont pas fait leur mise à jour de page de sécurité. Avant, dans une grande entreprise, vous faisiez ça, mais toutes les directions métiers hurlaient parce que plus aucune direction métier pouvait fonctionner si ils n'ont pas leur informatique. Et donc finalement, les services d'information pliaient et n'obligeaient pas les mises à jour des pages de sécurité. Aujourd'hui, dans les grandes entreprises françaises, il y a eu une prise de conscience des risques cyber. Il y a beaucoup plus de facilité à obtenir le budget lié aux investissements cyber nécessaires. Mais ça, c'est uniquement dans les grandes entreprises ou alors dans les organismes où il y a des infrastructures vitales. Mais après, il y a tout le tissu des PME et tout le tissu des citoyens qui sont absolument pas sensibilisés.
Un chiffre pour aller dans votre sens lors de la redire que vous donnez, hein, Philippe Trouchot et votre cabinet PricewaterhouseCoopers. 29% des entreprises interrogées par votre cabinet, 29% seulement, perçoivent la sécurité comme un enjeu prioritaire. 3 entreprises sur 10, c'est tout. Mais avant de combattre un problème, il faut aussi reconnaître ce problème, dire qu'il existe ce problème.
Oui, absolument. Donc ça, c'est un sondage qui portait surtout sur des entreprises dites de taille intermédiaire. C'est vrai que quand on regarde les entreprises du CAC 40, pour le coup, elles font maintenant de la cybersécurité le premier risque encouru par leur groupe. Donc les grandes entreprises, elles ont compris. Un petit bémol quand même, en matière de cybersécurité, il suffit pas de faire des chèques et d'avoir des budgets, il faut d'abord avoir des talents. Hein. Et on est quand même là dans une guerre mondiale des talents. Il manque aujourd'hui 1 million de professionnels sur le marché. Très vite, dès 2020, avec l'explosion des besoins liés notamment à l'IoT, on sera dans un manque de 2 millions. La Commission européenne, elle est encore plus alarmiste, elle parle de 3 millions de professionnels manquants. Donc en fait, on voit quand même les grandes entreprises échouer parfois, pas parce qu'elles n'ont pas de moyens financiers, mais simplement parce qu'elles n'ont pas les talents.
Et ça, c'est un problème de formation ou
absolument
un autre problème?
Non, c'est d'abord.
Les formations existent. En revanche, il y a une cinquantaine de master 2 de cybersécurité en France. Donc ça a été mis en place. En revanche, ces formations ne font pas le plein. Donc il y a de la publicité à faire pour que les jeunes rejoignent d'urgence ces formations. D'abord en France, on est excellent dans cette matière. Et donc on a un savoir-faire qui est en informatique qui est bon. Et deuxièmement, il y a de l'emploi derrière. Il y a des emplois intéressants pour des personnes qui aiment l'informatique.
Philippe Trouchot.
Ouais, je pense que une des problématiques, c'est qu'il faut que ces carrières soient attractives. Elles le sont pas aujourd'hui parce que on a toujours du mal à applaudir les trains qui arrivent à l'heure et finalement, c'est ce qu'on demande à un responsable sécurité. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, il y a des formations, mais il n'y a pas de volonté encore très forte politiquement. C'est dommage parce que comme vous l'avez dit, on est un territoire d'écoles d'ingénieurs. Les plus prestigieux sont issus d'écoles de guerre. On a probablement la meilleure école mathématique dans le monde. On a d'ores et déjà des champions industriels qui rayonne dans le monde entier. Donc on pourrait se donner un dessin mondial sur la cybersécurité. On manque, excusez de le dire devant vous, je pense qu'on pourrait avoir beaucoup plus de volonté politique pour justement rendre ces carrières attractives. Elles le seront jamais dans une seule entreprise. Hein. Ces talents-là sont des talents mondiaux. Ils sont intéressés par les défis et par des filières et par des expositions mondiales. Donc il faudra à l'avenir, je pense, qu'on raisonne beaucoup plus, au moins à minima, hein, sur un plan européen que sur un plan local.
Lors de la redire.
On a une véritable carte à jouer en France, en fait, pour lancer et consolider une filière industrielle de la cybersécurité, puisque nous avons à la fois des PME qui maîtrisent des technos extrêmement puissantes et des grands groupes qui sont aussi, comme Thales ou d'autres, sur ces enjeux de cybersécurité. Et on doit porter, en fait, dans une ambition de souveraineté au niveau européen, cette filière industrielle. Il y va naturellement de la sécurité de l'État français, des infrastructures vitales pour notre pays, mais aussi un enjeu économique majeur. Donc voilà, ça serait. C'est la raison, je dirais, de la constitution du groupe d'études cybersécurité et souveraineté numérique à l'Assemblée nationale. C'est pour porter cette ambition pour notre pays, à la fois d'un point de vue protection, mais aussi d'un point de vue conquête industrielle.
La France a énormément de talents, donc Genma, comment expliquez-vous qui êtes au cœur du système, qui êtes passé peut-être aussi par cette filière et cette formation française, comment expliquez-vous qu'on manque aujourd'hui de talents dans ce domaine de la cybersécurité?
Je pense qu'en fait, il y a déjà la filiale informatique, c'est très vaste et très large, et la cybersécurité, c'est vraiment une spécialisation de ce domaine-là. Et comme on a dit, l'image qu'on en a de la cybersécurité, c'est casser du code, faire des mathématiques, faire beaucoup de théorisation, ce qui est nécessaire, effectivement, pour créer en fait des systèmes de chiffrement complexes. Mais dans l'opérationnel au quotidien, c'est de la maîtrise de logiciels. On n'a pas forcément besoin de connaître les algorithmes par cœur. Il faut juste savoir que c'est tel algorithme qu'on va utiliser, qui est l'état de l'art à l'heure actuelle. Et ça, c'est peut-être, c'est toujours pareil, c'est de la communication pour donner de l'attractivité. Dire que dans la cybersécurité, il y a deux filiales, on va dire. La filiale théorique, où ça sera plus des gens orientés mathématiques, scientifiques, qui vont construire en fait la sécurité de demain et la sécurité quotidienne du jour le jour, avec justement mettre en place les logiciels. Il y a différents niveaux. Un technicien de base devrait à l'heure actuelle avoir une formation sur des principes de base d'hygiène numérique.
On va revenir à la formation, à la pédagogie. Juste un mot avant avec vous, Laure de la Rodière, sur les moyens alloués à la cybersécurité. Je pense notamment à l'ANSSI, l'Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information, qui est l'organisme gouvernemental chargé de mettre en place la politique nationale de cybersécurité. 80 millions d'euros de budget l'an dernier. C'est moins que le budget de l'Élysée. Est-ce que le budget sera en hausse l'an prochain pour
Écoutez, l'ANSSI a été créé en 2008, l'ANSSI a été créé en 2008,
hein.
Donc c'est assez récent, mais on n'est pas en retard par rapport aux autres pays européens. Et d'une cinquantaine d'emplois à l'ANSSI en 2010, aujourd'hui ils sont 260, 280. Ils ont envie, on a auditionné le directeur dans l'ANSSI récemment. Et
qui
en
dit
fait,
lui aussi qu'il a du mal à recruter les talents. Hein.
Il a du mal à recruter, donc c'est plus un problème pour lui de recruter des personnes formées à la cybersécurité qu'un problème de budgétaire. C'est une des rares personnes de l'État qui doit dire ça. Et il dit aussi qu'il faut qu'il reste suffisamment souple, donc il n'a pas du tout envie de devenir une agence à 500 ou 600, parce qu'il veut être très opérationnel, être capable d'être très réactif par rapport au sujet de cyber, et donc il veut rester une agence à taille humaine pour avoir cette réactivité-là.
Enfin, l'un des sénateurs, les Républicains, Ladislas Poniatowski, disait hein, lors de cette audition, lors d'une audition en tout cas, c'était début octobre, avec ce directeur de l'ANSSI, que l'ANSSI pâtit d'un problème de ressources, des talents très jeunes, mais qui ne restent pas débauchés par d'autres. La France ne joue pas dans la même catégorie que les États-Unis, la Russie et la Chine. Nous avons un long chemin à parcourir pour rattraper notre retard, dit-il.
Les États-Unis ont la NSA, et ça regroupe à la fois les services de renseignement et les services de cybersécurité. L'ANSSI, c'est dédié à la cybersécurité. Ça fait pas de renseignement. Et c'est une bonne chose, à mon avis, vis-à-vis des citoyens, de séparer les deux. Globalement, ils sont pas là pour vous espionner, ils sont là pour vous protéger. Il y en a d'autres qui sont là pour vous espionner, enfin certains citoyens, pas tous les citoyens, mais c'est très différent de la NSA. C'est fondamentalement différent de la Russie aussi. Et je pense qu'on a cette spécificité, en fait, d'une agence qui est là pour protéger les citoyens français, protéger les infrastructures vitales, protéger l'État des attaques cyber et des attaques qui peuvent provenir de pays étrangers. Et le fait, c'est Patrick Payou, hein, lui-même, le directeur de l'ANSSI, qui dit finalement, moi, je suis contente d'avoir quelque chose d'hyperactif. Oui, il a un problème parce que, je dirais, il forme des jeunes qui vont après servir dans l'industrie, mais finalement, ça rejoint l'ambition qu'on peut avoir de développer une filière de cybersécurité en France.
Donc,
tout ça est sain si, à la base, il y a suffisamment de jeunes qui s'engagent dans les métiers de cybersécurité, que ça soit des formations de techniciens ou des formations d'ingénieurs ou de master 2. C'est vraiment un appel que je fais aujourd'hui. Allez-y, c'est un métier intéressant, c'est un métier en développement, vous aurez aucun problème d'emploi et vous serez bien payé.
Philippe Trouchot. Non, je voulais réagir parce que pour moi, ça relève aussi du French bashing systématique. Quand vous voyagez dans le monde, il n'y a pas un cadre législatif comme on a en France et il n'y a pas l'ANSSI dans beaucoup de pays. Je vais pas citer de nom pour pas faire de peine à nos voisins, mais regardez à côté de nous, il n'y a pas cet arsenal législatif, il n'y a pas ces compétences-là. Après, je pense que, d'ailleurs, c'est probablement ce qui a été cité devant votre commission, je suis pas persuadé personnellement que l'ANSSI ait vocation à employer des milliers de personnes, parce que la collaboration, comme on l'a dit, avec les industriels, elle est précieuse, elle se fait d'ailleurs très fortement dans les pays anglo-saxons. Et justement, il faut veiller à ne pas être que dans le réglementaire ou la normalisation. Il faut d'abord créer des modes de collaboration qui créent des modèles économiques, parce que les acteurs de la cybersécurité, aussi en France, et notamment au travers des schémas de certification, ils manquent de modèles économiques. Hein. C'est très bien d'avoir des règlements, de normaliser le marché, quoi qu'on pourrait en débattre, mais en tout cas, tous ces industriels qui ont le talent, qui ont le capital humain, ont besoin d'avoir des débouchés économiques. C'est ça leur première préoccupation.
La cybersécurité est-elle vouée à l'échec? Question posée ce soir dans le grain à moudre. Nous en parlons avec Philippe Trouchot, associé au sein du cabinet PricewaterhouseCoopers en charge des activités de cybersécurité. Laure de la Rodière, député UDI, ingénieur télécom. Genma, blogueur, directeur des systèmes de sécurité dans une PME. L'Inagora, je me tourne vers vous, Genma, pour revenir sur ce sujet de la formation, de la pédagogie, puisque vous en faites, vous, de la pédagogie lors de conférences, d'ateliers organisés avec des citoyens, des particuliers. Vous parlez d'hygiène numérique, une hygiène nécessaire à tous. Qu'est-ce que cela veut dire précisément?
Donc en fait, l'hygiène numérique, c'est quelques règles de base que tout à chacun doit s'approprier. Parce qu'à l'heure actuelle, on utilise tous les jours un ordinateur. Même si on n'en a pas, on en a un, ça s'appelle un smartphone, c'est un ordinateur de poche. Et donc, en fait, il y a des règles de base qui sont des règles d'hygiène. L'exemple que je donne souvent lors des conférences, c'est quand on est petit, on nous explique qu'il faut se laver les mains avant de passer à table. Mmh. Bah, l'hygiène numérique, c'est comment éviter la gastro-informatique. Mmh. Et donc, c'est un terme que j'utilise depuis quelques années maintenant et qui s'est très vite démocratisé, qui passe très bien en fait auprès du grand public, justement ce terme, cette appropriation d'hygiène numérique. L'ANSSI l'utilise maintenant aussi et fait des très bons guides. Et d'ailleurs, on peut saluer tout le travail qui est fait par l'ANSSI, aussi bien au niveau du grand public, avec des guides très bien faits sur comment voyager à l'étranger, etc. Des professionnels, en fait, plus des collaborateurs qui n'ont pas forcément vocation à travailler dans l'informatique, mais qui vont utiliser des outils informatiques, avec vous partez à l'étranger, bah, quelles sont les règles de base pour sécuriser son PC et ne pas en fait avoir des données qui vont fuiter. Et il y a un travail plus en fait complexe, avec justement des règles sur comment sécuriser un système d'information, avec des règles très poussées de sécurité.
Lors de la redire, je vous voyais réagir à ce que vient de dire Guedemin.
Oui, vous prenez l'exemple de vous laver les mains avant de passer à table. Moi, j'ai pris l'exemple de comment traverser la rue.
Oui.
Et c'est exactement ça. C'est tout ce qu'on a appris par automatisme, en fait, enfant. Eh ben, il faut que les adultes réapprennent un automatisme de culture numérique. Vous appelez ça hygiène numérique. Moi, j'appelle ça plus largement culture numérique, qui n'a pas été au cœur de notre éducation en tant qu'enfant.
Par quoi
et
ça
qui
passe?
Qui n'est même pas au cœur de l'éducation des enfants d'aujourd'hui.
Mmh. Mais justement, par quoi donc, ça passe? Par quoi alors, il passe
moi,
cette
je
éducation?
Prône,
par l'école?
Moi, je prône depuis quelques années le fait que, au collège, on transforme le cours de techno en un cours de culture numérique, où on mettrait un peu de code, apprendre à coder, comment un logiciel, c'est pas par le Saint-Esprit que ça arrive, hein, c'est des lignes de code, comment c'est fait. Deuxièmement, on mettrait comment bien se comporter sur les réseaux sociaux et la citoyenneté numérique. Troisièmement, on mettrait comment bien se protéger en matière de cybersécurité. Troisièmement, on ferait découvrir aussi les différents métiers du numérique qui sont tous en tension. On parle de la sécurité aujourd'hui, mais ils sont tous en tension, alors qu'on voit certains enfants qui continuent à faire des études supérieures dans des filières qui sont bouchées. C'est quand même dommage, et peut-être qu'il faut leur faire découvrir ces métiers. On n'a pas les moyens à l'éducation nationale de tout faire, je suis d'accord. Donc moi, je propose des choix. La priorité, c'est le numérique, au sens large, et donc il faut transformer ce cours de techno en cours de culture numérique. Après, je propose, dans les entreprises, à l'instar de ce qu'ont fait certaines entreprises, je voudrais citer Bouygues Télécom, c'est qu'il y ait une mise en place d'une petite formation avec finalement délivrer un petit brevet, une formation obligatoire à tous les salariés, avec un petit brevet à la clé de culture numérique aussi, avec l'appréhension des enjeux cybersécurité. Ils ont fait ça par un tutoriel en ligne, BT, et puis vous deviez atteindre un certain niveau de compréhension des enjeux du numérique et des enjeux cyber. Ça n'a pas pris énormément de temps, ça n'a pas coûté très cher à l'entreprise, mais au moins ça a permis de former tous les salariés de cette entreprise. On peut très bien imaginer décliner ça, et ça pourrait être d'ailleurs une brique de logiciel fournie par l'État, hein, en tutoriel en ligne qu'on diffuserait dans les entreprises.
Avant
voilà
passer,
ce que je propose.
Avant de passer la parole à Philippe Trouchot, vous faites ça, vous, Guedemin, dans votre entreprise, des tutoriels, de la formation continue pour
tout à fait. Donc en fait, tout nouvel arrivant reçoit un livret d'accueil dans lequel, en fait, il y a les 10 règles de sécurité de base que nous avons mis en place pour chez Linagora. Donc ça va être utiliser un coffre-fort numérique pour l'usage des mots de passe. Donc Monsieur Trouchot disait tout à l'heure, en fait, la complexité des mots de passe, bah, on parle de coffre-fort numérique, chiffrement du poste. Il y a une sensibilisation à la responsabilité qu'on a par rapport aux mails qu'on peut envoyer ou recevoir, parce qu'il y a toutes les techniques de hameçonnage, etc. On a eu la problématique sur les réseaux sociaux aussi, sur LinkedIn, où il y a des faux profils qu'ont demandé en fait des collaborateurs. Donc là, on a une sensibilisation avec non, cette telle personne n'a pas été embauchée chez nous et donc n'est pas du tout légitime à être rentrer en contact avec vous. Je me permets juste une petite parenthèse. J'aime beaucoup le terme de culture numérique et je vous approuve tout à fait, Madame de la Rodière, parce que c'est vraiment ça, en fait. Et dans cette culture numérique, on peut rajouter justement aussi l'éducation, donc c'est l'éducation numérique sur l'éducation à l'image. On parle souvent des bulles de filtre, des problématiques des réseaux sociaux, etc. En fait, c'est un tout. Et ça touche de très près aussi l'hygiène numérique, parce qu'il y a comment se comporter aussi. Et ça rejoint en fait un article que je me permets de citer. Donc c'est Hygiène et écologisme numérique qui a été publié par l'ami Clochix sur le Framablog, donc un ensemble du réseau de Framasoft. Mmh. Et lui, il va plus loin qu'en fait l'hygiène numérique, il parle de intimité numérique. Donc en fait, l'intimité, c'est qu'est-ce que je veux protéger, et l'hygiène, c'est comment je vais le protéger. Et j'ai beaucoup aimé en fait ce terme, parce qu'on a beaucoup parlé de qu'est-ce qu'il faut faire, mais avant de qu'est-ce qu'il faut faire, c'est qu'est-ce que je veux protéger.
Dans les entreprises, Philippe Trouchot, la formation, on vient de l'entendre, est essentielle. Est-ce que là aussi, on ouvre plus largement à la culture numérique, ou est-ce qu'on se concentre sur les besoins précis d'une entreprise?
Alors, pour répondre au début de votre question, c'est absolument essentiel. On a souvent pas de stratégie en matière de cybersécurité. On sait pas forcément ce qu'on a à protéger, c'est ce qui vient d'être dit. Et on a des mauvaises tactiques parce qu'on cherche à se protéger uniquement de l'extérieur, alors que 70% des incidents, ils viennent des employés et des sous-traitants. Donc, si on doit faire porter un effort là-dessus, c'est d'abord sur la sensibilisation, la compréhension, et le mode répressif, il n'est pas utile en matière de cybersécurité. Et les sous-traitants, toutes les chaînes de valeur, quels que soient les secteurs d'activité, elles sont de plus en plus éclatées. On a un recours de plus en plus accru à la sous-traitance. On le disait, on n'a jamais autant investi dans la technologie. On investit 4000 milliards de dollars dans le monde entier chaque année dans la technologie, parce qu'il y a des nouveaux entrants dans toutes les chaînes de valeur et on essaye de les contrer. Et on sous-traite massivement à des sous-traitants. Donc beaucoup d'incidents qui ont été cités implicitement ou explicitement, même quand ils étaient dans des CAC 40, ils venaient pas de l'entreprise elle-même, ils venaient plutôt de sous-traitants ou de partenariats. Donc évidemment, il faut se sensibiliser les salariés, mais il faut aussi faire peser des exigences et vérifier ce qui est fait par les sous-traitants. Ça peut être un transporteur, ça peut être quelqu'un qui travaille sur de la R&D, parce que c'est là qu'on crée la majorité des sources de problèmes en matière de cybersécurité.
C'est un sujet que vous abordez dans votre livre, Philippe Trouchot, la cybersécurité face aux défis de la confiance chez Odile Jacob. Autre sujet intéressant, c'est qu'il faut savoir adapter sa défense au sein d'une entreprise. Vous parlez de défense périmétrique, c'est-à-dire celle qu'on peut avoir sur nos postes quand on arrive dans une entreprise, quand on est salarié, on a des mots de passe, etc. Ce qui n'est pas forcément la meilleure défense à adopter. Vous parlez, vous, de défense en profondeur.
Oui, alors on va peut-être éviter tous les concepts de défense, mais le constat...
Mais en tout cas, la stratégie est intéressante, parce qu'il faut savoir adapter sa défense.
Oui, parce que les concepts de sécurité périmétrique, c'est finalement issu d'une culture à la Vauban. On met des murs, on adore ça en France, ça peut éventuellement, c'est joli dans un paysage, mais ça correspond plus à la réalité du système d'information d'une entreprise. La réalité du système d'information d'une entreprise, c'est que il est éclaté et il n'est pas présent physiquement dans l'entreprise. En fait, la plupart des données, elles sont même à l'extérieur de l'entreprise. Donc sécuriser ça avec l'image d'un mur où on met des serveurs ou des ordinateurs, ça ne correspond plus à la réalité. Donc, et comme j'ai essayé de le dire tout à l'heure, il y a tout un tas d'intervenants qui ne sont pas des intervenants au sein de l'entreprise. Ça peut être des prestataires informatiques, et les données, elles sont évidemment dans le fameux nuage. Et donc là aussi, il y a besoin d'avoir des exigences de sécurité. Donc on a inconsciemment dans notre culture française des mécanismes très périmétriques en fait. Encore une fois, c'est même inscrit dans notre paysage, et ça, il faut un peu casser ces dogmes culturels, parce que encore une fois, ça correspond pas à la réalité du système d'information des entreprises.
Également.
Oui, c'est vrai que là, on pense souvent en sécurité, on parle de technique, de mots de passe, etc. Et tout à l'heure, pour préparer l'émission, j'ai regardé les réseaux sociaux. Il y a une image, une petite vidéo qui tourne, où c'est une interview radio, en fait, dans la rue. On demande à quelqu'un, donc, est-ce que vous avez un chien? Comment il s'appelle? Vous avez fait quelle école? Etc. Un certain nombre de questions, qui sont les questions typiques qu'on aura sur un réseau social quand on oublie son mot de passe. Et en fait, c'est ce qu'on appelle du social engineering, de l'ingénierie sociale. Et ça, c'est quelque chose auquel il faut sensibiliser aussi les collaborateurs. Parce que, comme disait monsieur, les systèmes informatiques vont être éclatés. On est dans une entreprise où on a un prestataire extérieur. Et donc, il y a quelqu'un qui peut vous appeler. Bon, écoutez, je dois intervenir sur votre poste. Donnez-moi l'adresse de votre ordinateur. Donnez-moi le mot de passe pour que je puisse me connecter et vérifier qu'on a bien fait les mises à jour. Ah, on me dit qu'on va faire les mises à jour. J'ai été sensibilisé lors de la formation, donc c'est important. Sauf que c'est quelqu'un qui vient pirater votre ordinateur. Donc, en fait, il y a, au-delà de la sécurité physique du poste, il y a vraiment une sensibilisation. Il faut penser un peu à tous les cas et vraiment penser à ça aussi. Ou ça peut être quelqu'un qui va être en déplacement dans un pays un peu sensible, qui a des données confidentielles sur son ordinateur. Et ben, faut pas accepter le verre d'une ou d'un inconnu. C'est vraiment, ça va au-delà en fait de la simple, comme disait monsieur, sécurisation physique en fait, avec des murs, on va dire, informatiques.
Certains essayent donc de se prémunir contre les attaques avec une culture numérique, avec plus d'hygiène, avec des logiciels, et puis d'autres finalement renoncent à ça en se disant bah, pff, pour moi c'est trop compliqué, et ils se tournent plus facilement vers les assurances des entreprises qui sont au courant en majorité hein, de ces offres d'assurance. Est-ce que ça vous semble là, lors de la Rodière, une bonne approche du sujet?
Bah, quand il y a un risque, il y a toujours une assurance qui peut se développer.
Au ça, moins c'est... complémentaire.
Voilà, enfin. L'un va pas sans l'autre, c'est-à-dire que je trouve assez intelligent d'être assuré contre un risque de perte d'exploitation si on vous prend vos données, par exemple. Pour autant, c'est quand même un traumatisme pour l'entreprise. C'est-à-dire que, enfin, c'est pas parce que vous êtes assuré que vous devez rien faire pour vous protéger du risque. Quand ça arrive, perdre ses données, c'est quelque chose de dramatique. Ça va empêcher l'entreprise de fonctionner pendant un certain nombre de temps. C'est un traumatisme très fort. Donc, il y a, à mon avis, pas beaucoup d'entreprises qui choisissent de prendre une assurance sans se prémunir du risque. Mais je dirais même, quand une entreprise prend conscience qu'elle doit prendre une assurance, on a déjà fait un grand pas. Parce que ça veut dire qu'elle a pris conscience du risque. Donc, elle va à la fois souscrire une assurance et en même temps réfléchir à se protéger. C'est déjà très bien. Mais aujourd'hui, quel est le pourcentage d'entreprises qui prennent conscience du risque cyber? C'est très peu. Quel sont le pourcentage des citoyens qui prennent conscience du risque cyber? C'est infinitésimal. Donc, moi, je vous félicite de faire cette émission sur France Culture, qui est quand même un média grand public. C'est une première. Il faudrait qu'il y en ait beaucoup plus.
Philippe Trouchot. L'assurance est un fait assez marquant parce que les entreprises qui s'assurent effectivement sont beaucoup plus matures que les autres en matière de cybersécurité. Donc on écoute beaucoup plus la parole de l'assureur que celle du management, du régulateur, du parlementaire, pourquoi pas. Voilà, donc c'est un cercle vertueux l'assurance, et on le voit bien dans d'autres types de risques. En fait, l'assurance fait quand même progresser un marché parce que elle exerce un certain nombre de contraintes. Comme vous avez payé pour être assuré, vous n'avez pas envie qu'on vous dise que n'ayant pas mis en place tel et tel process, vous n'êtes finalement pas éligible à avoir une prime. Mais évidemment, il vaut mieux prévenir le risque avant d'aller voir l'assureur. Mais l'assurance, ça apportera un cercle vertueux dans la cybersécurité.
Alors, il y a un mot que vous avez tous cité, Philippe Trouchot en particulier beaucoup, c'est la collaboration, la confiance. C'est l'un des éléments clés de la cybersécurité. C'est l'objet, je le rappelle encore une fois, de votre livre. Quand on est une entreprise, Genma, vous qui travaillez au cœur d'une entreprise, qui travaillez sur ces systèmes de sécurité, comment la créer, cette confiance? Est-ce que vous êtes d'accord aussi avec l'analyse de Philippe Trouchot qui dit que c'est la clé, encore une fois, de ce combat?
C'est vraiment ça, parce qu'on aura beau mettre en place tout ce qu'on veut, s'il n'y a pas la confiance et l'implication des collaborateurs, ça sert à rien. Parce que justement, en fait, tous les outils de sécurité qu'on va mettre en place sont des contraintes. Et les contraintes, souvent, on va tout faire en fait pour les limiter, pour les réduire. Donc, il faut expliquer pour impliquer. C'est comme du management en fait dans une équipe au quotidien. On va expliquer pour que le collaborateur s'implique et comprenne pourquoi on lui demande ça, pourquoi on a ce niveau d'exigence pour répondre à un besoin client. On a le même, en fait, la même pédagogie pour expliquer pourquoi on a ce niveau d'exigence au niveau sécuritaire. Quelqu'un qui a compris pourquoi il faut le faire, le fera. Quelqu'un qui ne comprend pas va dire, mais non, mais c'est contraignant, ça sert à rien, et l'incident arrive.
Philippe Trouchot.
Alors, la confiance, on peut l'envisager sur deux axes. D'abord, il y a quand même le coût de la cybersécurité au plan mondial. Ça coûte aujourd'hui à peu près 600 milliards de dollars et ça sera à peu près 1000 milliards de dollars d'ici 2020. Ça veut dire que si je multiplie par 3, la cybersécurité nous coûte tous les 3 ans l'équivalent de la crise des subprimes. C'est ça l'ordre de grandeur quand même. Et surtout, au-delà de ça, on détruit la confiance des utilisateurs. Donc, il y a un rapport qui est très bien fait, qui est le rapport du Crédoc, qui montre ça en 2017.
Oui, parce que la confiance vaut au sein même d'une entreprise.
Oui, voilà, il y a la confiance.
Mais il y a aussi la relation de confiance, voilà, entre les utilisateurs, les consommateurs et les entreprises.
Voilà. Et quand vous regardez le rapport du Crédoc, qui encore une fois est un document qui est très bien fait, il montre qu'aujourd'hui, vous avez plus de 2/3 des Français qui ont plus confiance dans le numérique et qui notamment ne souhaitent plus payer. Et si vous allez dans des verticaux comme la santé, il y a seulement 16% des Français qui seraient volontaires pour partager quelques informations de base, type un numéro de sécurité sociale ou une information de groupe sanguin. Donc là, ces statistiques-là, elles font plaisir à personne, donc elles sont pas très médiatisées, mais elles veulent dire une chose, c'est que nos rêves numériques, ils sont pas forcément aujourd'hui complètement ancrés dans les usages. Et toutes les ères de prospérité économique, c'est l'histoire de la Renaissance, finalement, il y avait un capital de confiance qui était exceptionnel. Vous le retrouvez avec l'ouverture des voies maritimes. Aujourd'hui, cette confiance dans le numérique, elle n'est pas réunie. Et on voit des phénomènes induits. Il y a des gens maintenant qui commencent à essayer, d'ailleurs, ils sont entendus par un certain nombre de parlementaires pour réfuter les compteurs intelligents, alors qu'on nous expliquait il y a quelques années que ça permettait d'économiser beaucoup de tranches nucléaires. Donc, et moi, je suis dans une petite commune de l'Ouest parisien. Il y a des artistes qui ont fait voter une...
Vous pensez au compteur Linky, hein, c'est ça?
Entre autres, mais il y a un rejet de la technologie. Il y a, y a des villes dans lesquelles on fait voter des arrêtés anti-ville intelligente. Donc, il y a un énorme bémol à faire ça, c'est que les incidents arrivent. Il ne faut pas croire qu'ils ne concernent que l'entreprise. Ils effondrent la confiance des clients et vous avez le même phénomène dans les pays anglo-saxons. À 2/3 de clients qui n'ont pas confiance, il n'y a pas de business model valable.
Lors de la Rodière.
Moi, sur la confiance, il y a des crises de confiance en matière de numérique à chaque fois qu'il y a des grandes plateformes, en fait, qui se font hacker les données personnelles des utilisateurs. Ça a été le cas récemment avec Facebook et on a vu une mise en cause, en fait, de Facebook et certains utilisateurs quitter le réseau social parce qu'on a eu l'impression que Facebook faisait... parce que Facebook faisait, c'est pas qu'on avait l'impression, c'est que Facebook faisait avec les données des utilisateurs des actions qu'elle disait ne pas faire. Et ça, c'est dramatique. C'est qu'il faut absolument, si on veut développer une confiance dans le numérique, dans les utilisateurs, qu'il y ait une grande transparence de ce qui est fait des données personnelles des utilisateurs par les entreprises et que ça soit jamais mis à mal d'un point de vue démocratique. La confiance, elle se mérite, quoi, en matière de numérique.
Il nous reste deux minutes. La transparence pour plus de confiance, et c'est comme ça que se pose l'enjeu, Guenemain.
Tout à fait, en fait. Et donc... en termes de transparence et de confiance, donc moi je travaille dans une société qui fait de ce qu'on appelle du logiciel libre, de l'open source. Donc en fait, le prérequis, c'est on donne les recettes de cuisine des logiciels qu'on utilise. Et donc tout à chacun est libre de regarder ce qu'il y a dedans. Et c'est un pendant que j'utilise moi souvent dans les conférences d'hygiène numérique en disant voilà, on vous donne la recette de cuisine informatique, vous pouvez regarder ce qu'il y a dedans, vous savez qu'il n'y a pas d'allergène, et en plus, vous pouvez cuisiner ce plat avec des ingrédients bio. Et donc on rejoint en fait quelque chose qui est souvent utilisé, c'est justement manger bio, c'est meilleur pour la santé. Et souvent dans les, on compare les grands groupes du numérique, les fameux GAFAM, à du McDo de l'informatique, de la malbouffe, etc. Et il y a justement cette défiance par rapport au numérique. C'est que il y a 1,3 milliard utilisateurs de Gmail à l'heure actuelle et on leur dit « Ah, mais Gmail, c'est le mal, etc. » Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a d'autres alternatives, mais c'est un peu plus compliqué. Et donc du coup, c'est « j'utilise plus ou j'utilise pas parce que je me méfie ».
Bon, encore une belle image, en tout cas, le bio de l'informatique, on va le retenir. Philippe Trouchot, il y a une question qu'on n'a pas posée. Est-ce qu'on peut se défendre en attaquant ceux qui nous attaquent? Est-ce que c'est efficace?
Alors, il y a des courants de pensée aux États-Unis, il y a des débats très vifs sur le sujet, parce que quand vous êtes une entreprise que vous dépensez des centaines de millions de dollars pour vous défendre et que finalement on arrive quand même à connaître qui vous attaque, la tentation, et je dis pas que c'est pas un raccourci intellectuel, serait de dire finalement pour avoir des sortes de drones logiques qui nous débarrassent de ces gens-là. Donc, on va pas trancher la question aujourd'hui. Je pense que ça relève de beaucoup de débats d'éthique et de sujets de société. C'est voilà. Mais en tout cas, cette tentation, ce débat, il viendra, j'en suis certain.
Ça viendra dans les entreprises, pour les États, les relations entre l'État, ça existe déjà.
Bien sûr. Ouais. Bien sûr, il faut toujours montrer aux autres qu'on est capable de les attaquer. Il ne s'agit pas forcément de le faire, mais il faut montrer qu'on est bien armé, mieux armé qu'eux, et que s'ils vont dans cette voie-là, on saura se défendre et au besoin attaquer.
Rapidement, également.
Ça, c'est la guerre.
Justement, c'est vrai que maintenant, on a un quatrième corps d'armée qui est le cyber. Mais pour en revenir par rapport à la défiance, rien que le terme de cyber, en fait, il y a un côté un peu fantasmagorique, c'est du numérique, c'est du virtuel, etc. Et donc du coup, le commun des mortels, on va dire, qui n'est pas du tout technophile, va dire c'est du cyber, c'est comme à un moment on avait la réalité virtuelle, etc. C'est fantasme technologique, on ne sait pas à quoi raccrocher ça. Et moi je préfère parler
On ne sait pas le comprendre, on ne sait pas le lire.
On ne sait pas le comprendre. Et je préfère parler de vie numérique versus la vie non numérique. Et là, on s'approprie mieux, en fait, c'est une vie, c'est pas une vie virtuelle, c'est numérique.
D'où l'importance de plus de pédagogie, de plus d'éducation, sujet que nous avons abordé. On a retenu notamment vos propositions lors de la Rodière. C'est la fin de cette émission. Merci à tous les trois. Lors de la Rodière, donc députée UDI, coprésidente du groupe d'études cybersécurité et souveraineté numérique à l'Assemblée nationale, Guenemain, blogueur militant pour une meilleure information du grand public sur la cybersécurité, Philippe Trouchot, associé au sein du cabinet de conseil PricewaterhouseCoopers, en charge de la cybersécurité et auteur, je le rappelle, de la cybersécurité face au défi de la confiance, c'est chez Odile Jacob. Un grand merci à l'équipe du
du grain à moudre. Antoine Tricot, Fanny Richet, Camille Ferré, Guillaume Laguigné et Antoine Dulster. Réalisation Alexandre Fougeron, prise de son Jean-Guy Lamège. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast et sur franceculture.fr à la page du grain à moudre. Demain, le club du grain à moudre en public du Bel Air à la Maison de la Radio comme chaque vendredi. Journée spéciale d'ailleurs sur France Culture à 4 jours des élections de mi-mandat aux États-Unis. Nous parlerons de l'action et de l'influence de Donald Trump en Europe. Trump fait-il craquer les démocraties européennes? À suivre sur France Culture, le rappel des titres et la dispute comme chaque jour avec le grand Arnaud Laporte. Bonne soirée.